Nous recevons ce matin deux journalistes du Monde, journalistes d'investigation ayant publié de nombreux livres, dont le célèbre « Un président ne devrait pas dire ça ». Le président, je vous le rappelle, c'était François Hollande et le livre avait semé le chaos dans la dernière partie de son quinquennat. « Inch'Allah, l'islamisation à visage découvert » est le titre de l'ouvrage qu'il dirige et publie chez Fayard. Gérard Davet, Fabrice Lhomme, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Pour ce nouveau livre, ce n'est pas vous qui tenez la plume, ce n'est pas vous qui avez mené l'enquête et les entretiens, non. Vous avez chapeauté 5 élèves du CFJ, le centre de formation des journalistes, supervisé également la publication de ce livre chez Fayard. Qu'est-ce que ce projet Spotlight, dites-le nous en quelques mots, dont Inch'Allah est la première pierre, Fabrice Lhomme?
C'est très simple, Spotlight c'est l'idée d'encadrer pendant une année plusieurs étudiants, en l'occurrence on avait choisi cinq jeunes journalistes qui sont en formation, enfin qui étaient en formation au CFJ, et de les mettre sur une enquête, si possible une enquête compliquée, pour leur apprendre, on va dire, la rudesse du métier, et aussi pour leur apprendre que l'investigation c'est difficile, et sur un sujet sensible, avec à l'arrivée forcément une enquête, si elle aboutit, qui débouche sur un livre publié aux éditions Fayard.
Vous dites dans le livre, nous avons mis un point d'honneur à ne jamais les accompagner à un seul rendez-vous, ni à leur fournir le moindre document, même dans nos moments de doute, et ils furent nombreux. De quel moment de doute parlez-vous, Gérard Davet ?
Bien, ces moments de doute, ils furent nombreux. Pourquoi ? Pour deux raisons principales. C'est que c'est un sujet qui est clivant, qui est compliqué. L'islamisation, c'est un sujet sur lequel il y a eu beaucoup d'idéologie. Et justement, nous, plutôt qu'aborder le sujet de travers par le biais de l'idéologie, on voulait le gérer par le côté en face, en fait. L'aborder en face, ce sujet, en mettant les faits sur la table. Or, les faits, ils sont forcément gênants, troublants, déstabilisants. Et donc, ça a généré des incompréhensions, des doutes, des questions.
De quelle nature ?
Bien, c'est l'islamisation, il faut d'abord dire ce que c'est, simplement, via le dictionnaire Larousse, c'est l'application de la loi islamique dans différents strates de la société, que ce soit l'éducation, la santé, la police, etc. Or, on tombe si vous avez lu le livre, je pense, on tombe sur des cas qui sont excessivement compliqués, sensibles. On arrive sur l'histoire du voile, évidemment, mais il n'y a pas que ça, c'est l'aspect visible. Il y a tout le reste. Et là, effectivement, nous, on n'était pas sur le terrain. Eux, ils y étaient. Et donc, ils avaient leur retour, leur vision des choses. Nous, on avait forcément une vision un petit peu distanciée. Et c'est là qu'il y a pu y avoir des incompréhensions.
Mais on manque vraiment de bons travaux sur le sujet, sur la région, sur les différentes villes de Seine-Saint-Denis, au point qu'il faille, en tout cas, mobiliser en plus le journalisme d'investigation.
Oui.
Le terrain est parcouru, non ?
Oui, alors le terrain est sans doute parcouru. D'abord, parfois, de manière ponctuelle, on va dire. Là, l'idée, c'était justement de regrouper tout un tas d'éléments qui apparaissent parfois de manière éparse dans les colonnes des journaux notamment. Et puis par ailleurs, c'est un sujet qui est loin d'être épuisé. En fait, c'est un sujet qui est complètement pollué par des batailles idéologiques. Vous avez des gens qui parlent de ça sans arrêt, que vous voyez à la télévision, que vous voyez même en tribune, qui sont des gens qui sont connus, qui sont de droite, qui sont de gauche, peu importe, ils se saisissent de ce sujet, ils vous balancent des choses définitives avec des clichés incroyables, mais ce sont des gens qui la plupart du temps ne connaissent pas le terrain, ni vont pas. Et nous, on a dit, on va faire exactement l'inverse. Zéro idéologie et 100% de terrain. Et c'est ce qu'ont fait les cinq journalistes.
Le livre commence sur une description d'une coutume chez les flics de la PJ du 93. Le pot annuel, grillade, foot, vin. Cette coutume de la police a dû changer, victime d'une évolution spectaculaire, écrivez-vous, racontez.
Bien, tout simplement, il s'est avéré que la PJ, effectivement, le Seine-Saint-Denis, un peu plus de 100 enquêteurs, faisait un pot régulièrement avec tous les effectifs qui étaient présents. Et il se trouve qu'au fil du temps, mais très récemment, plus particulièrement, il y a eu une frange de la Seine-Saint-Denis, de la PJ de Seine-Saint-Denis, qui a dit concrètement là c'est compliqué, on n'a pas envie de manger du porc, on n'a ensuite pas envie que ce soit des femmes qui s'occupent du barbecue et qui touchent les saucisses, etc., etc. Et donc ça a créé une scission au sein de la PJ et le pot du coup on a été fort affecté. C'est un détail, c'est anecdotique, mais cela à notre sens révèle concrètement les failles et les fractures que crée justement cette islamisation. Il se passe quelque chose et ce quelque chose nous influe, nous impacte tous.
Quand vous évaluez à la moitié de la population de Seine-Saint-Denis, vous dites qu'à peu près la moitié de la Seine-Saint-Denis est composée de musulmans. Comment vous arrivez à cette statistique-là alors que les statistiques précises sur le sujet sont impossibles et interdites en France, Fabrice?
Alors précisément, je ne qualifierais pas ça donc de statistique, puisqu'effectivement ces statistiques sont interdites sous cette forme.
Et alors c'est au pif ?
Non, évidemment.
Au doigt mouillé.
Ce chiffre auquel sont arrivés nos jeunes journalistes. est un chiffre qui regroupe toutes les études qui ont pu être faites par des chercheurs, des spécialistes, etc. Et c'est un chiffre, je crois, qui n'est pas forcément une révélation du livre, il y en a beaucoup suffisamment, mais qui est un chiffre qui fait consensus à peu près. Mais c'est un petit peu au doigt mouillé, peut-être est-ce un petit peu moins, est-ce un peu plus, puisqu'on l'a pas quantifié exactement. C'est simplement pour dire qu'effectivement, en France, c'est un département dans lequel la présence musulmane est très forte.
Votre livre est une somme de portraits, de personnes que votre équipe, que les cinq jeunes journalistes ont rencontrées, des chefs d'entreprise, des lobbyistes, des imams, des gynécologues, des directeurs d'école. Et ce qu'on voit, ce qu'on lit, c'est que l'islam, tel qu'il est décrit, prétend régir tous les espaces de la vie sociale. En fait, c'est pas seulement la revendication d'un droit à pratiquer sa religion, mais la construction d'un véritable mode de vie. C'est ça qu'on comprend dans votre livre.
Mais c'est tout à fait l'objet du livre, et c'est pour ça que il faut vraiment se garder de faire cet amalgame qui est fait beaucoup trop souvent par les personnes dont je vous parlais, qui prennent la parole publiquement pour dénoncer pêle-mêle les musulmans, l'islam, l'islamisme, l'islamisation. On s'y perd dans ces définitions. Attention, la pratique de l'islam, comme la pratique de n'importe quelle religion, catholique, protestante ou je ne sais quoi, elle est tout à fait plus que tolérée, elle est encadrée par la République française, ça ne pose aucun souci. Là, l'évolution qu'on a notée et qu'ont noté nos cinq enquêteurs, c'est que il y a une volonté dans une petite partie de ces musulmans, notamment de Seine-Saint-Denis, mais pas seulement, d'avoir des revendications pour que l'islam puisse effectivement, on va dire, s'imposer comme norme sociale dans la vie publique. Voilà, tout simplement. Alors, et c'est ce qui est documenté à travers des chapitres qui sont, je crois, bourrés de révélations sur ce point.
Deux exemples, deux premiers exemples. Racontez-nous les scènes. D'abord, une directrice d'école qui voit l'évolution petit à petit opérer dans son école, notamment à la cantine, où là aussi, ils ne veulent plus. Il y a des tables pures et des tables impures. Et puis ensuite, il y a cette vague de filles qui sont allergiques au chlore pour sécher la piscine. Et puis elle dit, et c'est peut-être une forme d'espoir, elle dit, c'est dans les classes vertes, quand on les sort de la Seine-Saint-Denis, quand on part une semaine, que la République peut se faire entendre.
Fabrice Lhomme.
C'est un témoignage qui est assez fort parce que c'est une directrice d'école qui connaît la Seine-Saint-Denis depuis très très longtemps, depuis plus que des années, des décennies, et qui a été donc le témoin, parmi d'autres témoins que nous avons retrouvés, qui a été le témoin de cette évolution. C'est vrai qu'il peut y avoir, elle y croit toujours, elle pense qu'il y a de l'espoir. Simplement, pour ça, elle dit qu'il faut absolument arriver à faire sortir ses enfants du moule dans lequel la société qui est autour d'eux les enferme, puisqu'on voit qu'il y a une volonté chez les plus jeunes parents, notamment, de revenir aux sources d'un islam mythique, dont on n'est même pas sûr qu'il ait jamais existé, mais en tous les cas, qu'il soit un islam plus rigoriste, plus fermé sur le reste de la société. Ces enfants, ils sont élevés comme ça, donc évidemment, ils sont sensibles à ça, mais l'espoir, c'est qu'effectivement, si on fait de la pédagogie, si on leur montre que le monde n'est pas exactement comme on leur décrit, on peut encore espérer. Mais je vous cache pas que la situation est quand même préoccupante.
C'est ce que j'allais vous dire, je vous cache pas qu'en lisant votre livre, il n'y a pas tellement d'espoir. J'ai fait exprès de pointer ce cas-là, de cette directrice d'école-là, où il y a encore un peu d'espoir. Sur le reste, c'est compliqué.
Oui, bien sûr que c'est compliqué. Alors après, il faut revenir à, j'allais dire, au fondement du livre et finalement du journalisme. Nous, on est là pour pointer ce qui va mal. Hein, le journalisme, on le dit toujours, c'est les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Donc, on n'est pas en train de dire qu'en Seine-Saint-Denis, il y a une sorte de couvre-feu islamique qui s'est imposé, qu'on ne peut plus sortir dans la rue si on est blanc ou si on n'est pas, en burqa, etc. Jamais, évidemment.
Si c'est pas couvre-feu, c'est quoi? C'est emprise,
oui,
c'est empreinte, c'est pression, c'est quoi?
C'est des revendications qui sont de plus en plus fortes, notamment par exemple, là c'est un exemple parmi d'autres, le fait que des parents exigent que leurs parents n'aillent plus à la piscine, on leur interdit de ne pas les envoyer, donc ils ont des certificats de complaisance, ce qu'on révèle à travers notamment un médecin qui a fait des certificats de complaisance. Et il y a tout d'autres choses, par exemple, comment contourner la loi sur le voile, le fait d'interdire les gens de sortir masqués. Eh bien, il se développe dans certains coins de Seine-Saint-Denis, mais plutôt les cités très excentrés, hein, pas dans les centres-villes. Eh bien, il y a des femmes qui portent des masques chirurgicaux. Pourquoi ? Comme ça, si elles sont arrêtées par la police, on leur dira « mais vous n'avez pas le droit de porter de masque », et elles diront « bah si, je suis malade ». Je suis malade, elles peuvent produire éventuellement aussi un certificat médical. Donc, voilà ce qui se développe.
Gérard Davé, comment analyser la situation de ce dépôt de bus de la RATP ? Parce que l'enquête montre parfaitement qu'il y a une doctrine dans cette entreprise. Position claire sur le papier, aucun signe religieux pendant le service, aucune prière ou manifestation religieuse dans les locaux. Donc c'est clair, Mais non, en fait, ça ne marche pas, ça ne règle pas tout.
C'est loin d'être clair, justement, parce qu'on a réussi à rentrer dans ce dépôt. Mmh. Ce dépôt, il est interdit aux journalistes. C'est le dépôt où était, où officiait d'ailleurs un ancien terroriste du 13 novembre 2015. Nous, on fait aucun lien, bien sûr, entre le djihadisme et l'islamisme. Hein. Mais il se trouve qu'on y est rentré. On y est rentré alors qu'on n'y avait pas le droit. Et on a regardé ce qui se passait concrètement, les faits, toujours les faits. Et l'un des enquêteurs, Hugo Vintrebert, y est rentré. Il a été voir ce qui se passait. Et concrètement, oui, effectivement, la loi qui ordonne normalement, qui régit l'utilisation de tout ce qui est religieux au sein d'un service public est totalement contournée, détournée, à tel point que non seulement il y a beaucoup effectivement de chauffeurs qui refusent par exemple de serrer la main de femme ou ce genre de choses, mais pas que. Il se trouve par exemple que nous avons à l'intérieur de ce dépôt des manifestations ostensibles, des prières qui sont dissimulées, ce genre de choses. Et donc ça crée évidemment des tensions à tel point aussi d'ailleurs qu'il y a des syndicats qui se développent là-dessus et qui sont quasiment des syndicats pro-musulmans. On en arrive à des syndicats communautaristes.
Mmh. Et c'est très intéressant aussi de voir comment les patrons de petites entreprises gèrent cette islamisation, ce que vous appelez l'islamisation. Et vous donnez des exemples différents. Vous avez ceux qui appliquent une laïcité, qui veulent appeler une laïcité totalement à la lettre, stricte. Et vous parlez de ce patron, Francis Dubrac, patron d'une entreprise de BTP à Saint-Denis, qui lui se fait l'avocat d'une laïcité ouverte en expliquant à ses 350 salariés vous ne pouvez pas abandonner votre religion à la porte de l'entreprise. Et lui, alors il compose. Il dit le foulard ok, mais pas le voile.
Je trouve que c'est un des chapitres les plus passionnants du livre. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que les postures, les caricatures ne résistent pas à l'examen des faits concrets. Là, on met en parallèle en fait deux patrons que nos journalistes ont rencontrés qui ont effectivement deux attitudes totalement différentes. L'un, un peu ultra laïcard, la religion, elle n'entre pas dans l'entreprise. Et l'autre, c'est je dois quand même composer et faire avec. Sincèrement, je mets au défi quiconque d'avoir une idée très précise sur ce qu'il faut faire après avoir lu ce chapitre. Simplement de voir que c'est pas facile et qu'on ne peut pas condamner, je pense, l'un ou l'autre. Je pense que le patron qui décide d'aménager un petit peu les heures de travail pour que ses employés musulmans puissent accomplir leur rite, est-ce que ça change totalement la façon dont l'entreprise fonctionne ? Apparemment, son entreprise marche bien. L'autre dit c'est une concession inacceptable, on commence comme ça et après ça ira beaucoup plus loin. J'en suis pas sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que ce chapitre illustre la complexité du sujet et le fait qu'il faut l'examiner de manière, alors à la fois nuancée, je pense, qu'est-ce qu'on a fait, mais surtout à chaque fois avec des faits concrets.
Et les politiques de terrain qui en parlent ? Parce qu'on voit du clientélisme, mais pas que ça. C'est plutôt aussi il y a pas que du cynisme. Il y a une volonté de faire quelque chose. Ils ne savent pas nécessairement.
Vous le dites dans une phrase très 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 claire. Ils aussi, voilà. Les élus, ils aussi entre clientélisme intéressé et ouverture sincère.
Ce qui est fascinant, c'est que pour cette enquête, on a évidemment nos enquêteurs ont évidemment sollicité les plus hautes autorités de la République. Mmh. Gérard Collomb, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur, qui a refusé évidemment de nous recevoir. Le préfet de Saint-Denis qui a refusé d'en parler. On a sollicité beaucoup d'hommes politiques importants qui ont refusé de nous parler. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les enquêteurs ?
La préfète responsable de l'égalité des chances accepte de vous parler.
Elle a accepté. La préfète à l'égalité des chances.
Ces mots sont très durs.
Qui fait un chapitre absolument incroyable où elle dit clairement les choses telles qu'elle les a vues. Et c'est vraiment fascinant et frappant.
Mais les filles portaient le foulard et puis le foulard est devenu noir et puis c'est devenu le niqab. C'est allé très vite. Les blancs s'en vont. Les arabes non musulmans ou complètement intégrés dans le creuset républicain s'en vont aussi. Restent massivement ceux qui acceptent de vivre avec pas de charcuterie et pas de possibilité pour les femmes de se promener dans l'espace public.
Oui,
c'est ce qu'elle dit.
C'est exactement ça, Fadela Ben Arabia. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, ce qui est important pour nous, ce qu'on a transmis à nos jeunes enquêteurs, c'est que ces gens-là parlent à visage découvert. Mmh. Ils donnent leur nom, ils s'expriment, ils disent les choses, ils assument leurs propos. Ça, c'est très très important. Et ce qu'on a pu voir aussi sur le terrain, effectivement, c'est ce que vous disiez, Nicolas Demorand, c'est-à-dire cette espèce de compromission permanente des hommes politiques de Seine-Saint-Denis pour composer avec ce terreau islamisant. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent bien qu'en fait, il y a tellement, tellement, tellement de musulmans que c'est un électorat captif qu'il leur faut obtenir pour être réélu ensuite pour les municipales. Et c'est vrai que pour les municipales de 2020, c'est ce qui va se passer. Concrètement, c'est qu'ils vont être obligés de composer avec et voir de les appâter. Et donc, ça se passe avec des achats de terrain pour la mosquée, genre de choses. Et ça n'arrête pas. C'est de plus en plus comme ça. Et certains musulmans composent avec ceci et même en tirent profit.
Pourquoi ne pas avoir enquêté sur la radicalisation voir la bascule vers le terrorisme, Fabrice Lhomme ?
Ça, alors, l'aspect radicalisation ou djihadisme, hein, pour dire les choses comme elles sont, ça apparaît quand même dans quelques chapitres. Il y a notamment un chapitre qui est là aussi très fort, je trouve, de parents qui ont perdu leur fils.
Terrible.
Hein, qui est mort en Syrie.
Les mécanismes entre un milieu et un passage à l'acte, cela ne font pas
absolument
partie de l'enquête.
C'est, pour le coup, c'est vraiment volontaire, parce que on ne veut pas entretenir justement ces, on va dire, ces fantasmes qui font cette espèce d'équivalence permanente ou de lien permanent entre islam égale islamisme égale djihadisme. Non, on parle de choses différentes. Bien sûr qu'il peut y avoir un lien dans le sens où les djihadistes se réclament de l'islam. Ok, ça on a bien compris. Mais ne faisons pas d'amalgame. Le processus de radicalisation qui va emmener des gens à se faire sauter ou à massacrer je ne sais quel innocent, ça n'est pas la même chose que des revendications pour pouvoir porter le voile dans la rue ou pour pouvoir aller à la mosquée plus souvent. Ça n'est pas la même chose. Et on ne voulait pas faire d'amalgame.
Les solutions, il y a notamment le rapport de Hakim El-Karoui de l'Institut Montaigne qui date d'il y a quelques semaines, qui évoque quelques pistes, qui dit il faut apprendre, revaloriser l'apprentissage de l'arabe à l'école notamment, pour qu'il ne soit pas laissé aux mosquées. La taxe halal pour mieux encadrer le financement de l'islam. Quel est votre avis sur ce rapport ?
Je trouvais que c'était un rapport qui avait l'avantage de mettre les pieds dans le plat, de nommer certaines choses. Après, moi, je me garderais bien de donner les solutions, parce que je pense que je sortirais de mon rôle de journaliste. La seule chose dont j'ai le sentiment, c'est que ce sujet est tabou, en quelque sorte, parce qu'il fait peur. Parce qu'on sait que quand on parle de ce sujet aujourd'hui, on risque d'être catalogué. Si vous dénoncez l'islamisation, vous êtes d'extrême droite. Si vous, au contraire, dénoncez ceux qui dénoncent l'islamisation, vous êtes un islamo-gauchiste. On a l'impression qu'on ne peut pas avoir de paroles nuancées, modérées et surtout basées sur des faits. Nous, ce qu'on espère, c'est que ce livre va ouvrir le débat et montrer qu'il ne faut surtout pas laisser ces questions-là aux extrêmes ou aux extrémistes. On peut être quelqu'un de démocrate, républicain, modéré et discuter tout à fait tranquillement des risques d'islamisation et des solutions qu'il y a à trouver. Mais les solutions, c'est aux politiques de les apporter.
Allez, on file au Standard d'Inter. Bonjour Benjamin et bienvenue.
Allô.
Oui, Benjamin, on vous écoute.
Oui, bonjour. J'ai envie de dire, pas besoin d'aller au fin fond de la Seine-Saint-Denis pour voir de l'islamisation. Venez à Saint-Ouen, le terrain de la mosquée a été offert par la ville, en ancienne municipalité. Je voulais savoir si Monsieur Lhomme et Davet avaient entendu parler du territoire perdu de la République sorti en 2002 et de la France soumise sortie il y a 2 ans de Monsieur Georges Bensoussan. Qui résumait assez bien les faits.
Merci Benjamin pour cette question. Qui veut répondre, Fabrice Lhomme ?
Alors, il faut savoir que pour leur enquête, parce que j'insiste vraiment, c'est l'enquête de nos 5 jeunes journalistes, ils ont lu, je pense, à peu près tout ce qui a pu être publié depuis 30 ou 40 ans sur le sujet. Tout à l'heure, Léa Salamé, vous parliez parfois des divergences qu'on a pu avoir avec eux. Parfois, on avait le sentiment qu'ils s'informaient trop de manière théorique, en rencontrant des chercheurs, des sociologues, en lisant des livres, etc. Et nous, on disait, mais le terrain. Bon, évidemment, ils allaient aussi sur le terrain, mais on avait peur, en fait, qu'ils ne ramènent pas assez de choses. Finalement, à l'arrivée, c'est l'inverse. On s'est dit, ils ont trop de choses, on ne sait plus quoi en faire. Mais ce qui fait un livre riche. Mais du coup, je peux vous garantir que tous ces livres-là ont été lus, digérés, et y compris des livres qui, parfois, tenaient des propos ou portaient des thèses un peu excessives.
Question sur l'application France Inter de Camille. En quoi est-il un problème que des gens embrassent l'islam, suivant la terminologie employée par Lhomme et Davet, les apéros de la police c'est un problème, un danger. J'ai l'impression d'entendre Zemmour, nous dit Camille. Qui veut répondre ?
C'est effectivement le danger. Nous, on n'est surtout pas Zemmour ni De Villiers et autres. Nous, on amène des faits, rien que des faits et juste des faits. Donc, ce que je demande juste aux auditeurs, c'est de prendre ce livre de qui sort mercredi.
Oui, mais des faits, si vous êtes honnête, des faits qui ressemblent à ce que dit aussi Éric Zemmour quand on lit le suicide français.
Oui, mais Éric Zemmour n'a pas du tout le monopole. Il n'a pas le monopole de l'agressivité ou de la haine. Nous, on a le monopole des faits. Les faits, c'est quoi ? C'est simplement qu'effectivement, il se passe des choses, on les amène sur la table, et les gens, après, ils en pensent ce qu'ils veulent. Mais ce livre fourmille de révélations, de documents, de chiffres importants, qui montrent que concrètement, quelque chose se passe. Et nous, notre travail de journaliste, c'est de l'expliquer, le révéler, et surtout de lever le voile sur ces pratiques qui sont souvent obscures.
On a envie d'écouter les 5 jeunes. D'ailleurs, ils vont être entendus dans l'Instant M dans les prochains jours, je crois. Que
mercredi, après.
Voilà. Ils sont tous là en régie.
On les voit, ils sont devant nous.
Ouais.
Comment ils ont réagi, les jeunes, à l'épreuve du terrain ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils étaient, ils étaient, Ils étaient stupéfaits, ils étaient... ça confortait ce qu'ils pensaient.
Non, je pense qu'ils ont tous évolué dans leurs a priori, parce qu'on a tous des a priori, genre des a priori, moi j'ai des a priori, c'est normal, on part avec une idée un peu reçue, et puis on s'aperçoit, moi c'est ce qui m'a frappé dans ce qu'ils nous ont dit, c'est que c'est toujours très complexe, et la réalité est parfois spectaculaire, et en même temps nuancée. Spectaculaire parce qu'ils trouvent des choses incroyables, eux-mêmes ont été un peu scotchés, je pense que Ivan Trippenbach, quand elle a visité une école où elle a vu que les enfants dessinaient, mais n'ont pas le droit de représenter de visage, etc., elle a été un peu choquée, ça peut se comprendre, et en même temps, c'est dans la même école on s'aperçoit que les parents mettent leurs enfants parce qu'ils préfèrent que leurs enfants soient là où ils sont bien élevés, où il y a de la discipline, plutôt que dans la rue à faire les dingues ou à vendre de la drogue. Donc on voit bien, c'est à la fois un peu choquant et en même temps, ça peut se comprendre, ça peut s'entendre. Donc je pense que c'est ce qui nous a le plus frappé, nous, c'est ce constat-là.
Plusieurs questions sur l'application de France Inter disent, ah bah ça y est, les journalistes du Monde ont découvert une réalité qui était parfaitement connue mais qu'ils refusaient de voir et d'entendre. C'est Patrice et Didier qui vous disent ça. Que répondez-vous au fait que vous avez découvert l'eau tiède en substance, Gérard Dabé?
Je répondrais que c'est une caricature.
Ou refuser de ne pas la voir.
Oui, mais c'est une caricature, parce que, par exemple, Luc Bronner, qui est directeur aujourd'hui de la rédaction du Monde, a fait un livre il y a quelques temps déjà, il suivait la banlieue, il a le prix Albert Londres pour ça. Donc, si vous voulez, la réalité de la banlieue, on a quelqu'un qui la suit en permanence au journal, on sait ce que c'est, on la connaît, et nous-mêmes, Fabrice et moi, on a grandi en banlieue, on est né en banlieue, on connaît tout ça. Simplement, il se trouve que ça manquait de faits, il y avait beaucoup d'idéologie, mais assez peu de faits. Là, on amène des faits. Voilà. Alors, peut-être que ça dérange certains, peut-être que ça n'arrange d'autres. On s'en fiche. Nous, on est juste là pour révéler les choses.
Marie est au standard, en ligne. Bonjour et bienvenue sur Inter, Marie.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, alors, j'ai entendu il y a peu de temps, merci déjà aux invités d'évoquer toutes ces questions, à Molenbeek, il me semble, en Belgique, une liste qui s'appelle Islam, se présente à des élections locales en revendiquant l'application de la charia, la séparation des hommes et des femmes dans l'espace public. Et le troisième point, je n'en souviens plus, mais ce que je crains, moi, c'est que... Enfin, voilà, la question que je me pose, c'est est-ce que il s'agit là d'un cheval de Troie pour un islam politique qui avance partout en Europe? Moi, l'interrogation, c'est quelle responsabilité des politiques pour avoir laissé des espaces à ce genre de choses, et comment on peut lutter contre?
Merci beaucoup pour cette question, Marie. Fabrice Lhomme.
Alors, d'abord, je dirais que c'est pas un cheval de Troie, dans le sens où les personnes dont elle parle, cette auditrice, avance démasquée, c'est-à-dire qu'il revendique le fait que l'islam politique veut obtenir une place qu'il n'avait pas jusque-là. Nous, ça nous renvoie au livre qu'on avait publié, dont vous parliez tout à l'heure sur François Hollande, sur le quinquennat de François Hollande, et c'est vrai que l'idée nous en est venue initialement là, puisque Hollande nous faisait des confidences ou des déclarations très spectaculaires pour un président de la République de gauche, disant le problème, on a un problème en France avec l'islam. Et l'islam demande une revendication politique. C'est-à-dire que l'islam veut s'installer comme force politique. C'est quand même très fort. Donc nous, on a voulu voir ça sur le terrain. Alors, pour être honnête sur ce point, il y a des choses aussi dans le livre. On voit qu'il y a effectivement, à certaines municipales maintenant, il y a des listes musulmanes, entre guillemets, qui se revendiquent comme telles, qui se présentent. C'est nouveau. Est-ce que c'est inquiétant? Je pense oui. Ce qui doit nous rassurer, c'est que ce sont des listes qui font des scores absolument dérisoires, en tous les cas pour l'instant.
Voilà, ils sont devenus professeurs, Gérard Dabé et Fabrice Lhomme, avec les cheveux blancs. Ça avance.
Oh, c'est pas gentil.
Bah, j'en ai aussi. C'est pas dramatique.
Pas tant que ça, Nicolas.
Et la relève, la succession, elle est en régie. Ivan Trippenbach, Célia Mebroukine, Romain Gaspard, Hugo Vintrebert, Charles Delouche sont ces cinq journalistes qui ont travaillé à ce livre chez Fayard que vous avez coordonné. Inch'Allah, l'islamisation à visage découvert. Une enquête Spotlight en Seine-Saint-Denis. Merci à tous.
Merci à
vous deux et aux cinq autres d'être venus sur Inter ce matin.